السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نتفقه اليوم إن شاء الله تعالى في بعض أحكام العيدين. Nous allons étudier aujourd'hui إن شاء الله تعالى certaines règles et comportements relatifs au jour des deux fêtes, à savoir Eid al-Fitr, la fête qui marque la rupture du mois de Ramadan, du jeûne de Ramadan, et Eid al-Adha qui a lieu le dixième jour du mois de Dhul-Hijjah, qui a lieu le dixième jour du mois de Dhul-Hijjah. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى nous dit les deux prières du عيد, à savoir عيد الفطر, la fête qui marque la rupture du jeûne de Ramadan, et عيد الأضحى, la fête du sacrifice, donc le dixième jour de Dhul-Hijjah, sont légiférées de par le livre, c'est-à-dire le Coran, la sunna du prophète sallam et ijma' al-muslimin, et le consensus des savants. وَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَّخِذُونَ أَعْيَادًا زَمَنِيَّةً وَمَكَانِيَّةً فَأَبْطَلَهَا الْإِسْلَامُ. Les associateurs, jadis, prenaient des jours, des lieux, des moments, des endroits en tant que fête, en tant que Eid, où ils faisaient des choses particulières. Et l'islam est venu et a rendu tout cela caduc. Wa awwadha anha Eid al-Fitr wa al-Adha. Et a remplacé tout cela par deux fêtes légiférées qui sont Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et cela se fait à la suite de deux grandes adorations qui sont des piliers de l'islam. Premièrement, Siyam Ramadan. Tu vas faire le Eid, après avoir jeûné Ramadan, tu vas remercier Allah Azza wa Jal, celui qui t'a facilité cette adoration, celui qui t'a légiféré cette législation. Tu vas fêter ce jour. Quant à Eid al-Adha, il a lieu suite aux grandes œuvres du Hajj. Naam, il est en plein Hajj. Le Hajj commence le 8e jour de Dhul-Hijjah, Yawm al-Tarwiyah. Ensuite, il y a Arafah, le 9e jour. Et le 10e jour, c'est le jour du Eid. Le 10e jour, c'est le jour du Eid. Donc, ça a lieu à un moment très particulier. وَقَدْ صَحَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةِ وكان لأهلها يوما يلعبون فيها. Il a été authentifié dans les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé dans sa ville Al-Madina suite à l'Égypte, les habitants de Médine avaient un jour particulier dans lequel ils jouaient. C'était un jour de fête. قال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit aux gens de Médine, Allah vous les a remplacés par deux autres fêtes qui sont meilleures. Par deux autres fêtes qui sont meilleures. Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice, ou Yawm al-Fitr, le jour qui marque la rupture du jeûne. La première chose à savoir, c'est l'appellation de ces jours de fête. Premièrement, Eid al-Fitr, et deuxièmement Eid al-Adha. Pourquoi est-ce que cela a été appelé Eid? Pourquoi est-ce que cela a été appelé Al-Eid, Al-A'yad? Car dans la langue arabe, Aada ya'oudu, c'est le fait de revenir, la chose qui se répète et qui revient. C'est pour ça qu'on a appelé le Eid Eid, car c'est comme une date d'anniversaire, c'est une date qui revient. Na'am, c'est une date qui revient. Donc, chaque année, au même moment, cette date revient. C'est pour cela qu'on appelait Al-Eid, Al-Eid, car ça se répète et ça revient. Pareil également, Ya'udu alayna al-Muslimin bil khayr wa surur wa al-farah. Aussi parce que ça revient sur nous, nous les musulmans, avec la joie, avec le bien et le bonheur. Donc c'est une chose qui se répète chaque année. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala remet à nouveau sur ses serviteurs ses grands bienfaits et ses grandes grâces du fait qu'ils l'ont adoré de par ses grandes adorations. As-sawm wal-hajj. As-sawm wal-hajj, le jeûne et le pèlerinage. Al-Allama Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, celui qui a fait le charh de Amnatul Ahkam, un des élèves de l'Allama ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, nous dit: wa shar'a lahum wa shur'a lahum al-ijtima' lis-salati fi hadayn al-'idayn liyata'arafu wa yatawasalu wa yuhanni ba'dhuhum ba'dha wa liyatahabu wa liyata'alafu. Ce grand savant rahmatullahi alayhi nous dit: il leur a été légiféré l'union pour la prière en ces deux jours de fête, afin qu'ils, c'est-à-dire les musulmans, qu'ils se connaissent, qu'ils se rencontrent, qu'ils lient les liens, se félicitent mutuellement, qu'ils s'aiment et entretiennent des liens. Donc ceci fait partie des sagesses du Eid. C'est que les musulmans vont se connaître. Parce que l'Eid n'aura pas lieu dans la mosquée du quartier, mais plutôt dans un endroit, yani jami'. La sunna, c'est de le faire dans un sahara, sur un terrain. Et l'ensemble des croyants de cette ville, de ce coin, vont sortir de leur quartier et tous se rencontrer dans cet endroit. Ainsi, tu vas rencontrer tes frères que tu ne connais pas. Et la sœur, elle va rencontrer sa sœur, et ainsi de suite. Dans Taïsir al-Allam, il nous mentionne cela, c'est donc une partie des sagesses. Quant aux preuves du caractère légiféré de la prière du Eid, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Donc il y a la salat et ensuite il y a le sacrifice. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعده الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون يداومون عليها. Le prophète عليه الصلاة والسلام n'a jamais délaissé la salat du Eid. Les califes bien guidés n'ont jamais délaissé la salat du Eid. Et les musulmans après eux. Et les musulmans après eux. Ça nous montre que c'est légiféré. Ce caractère légiféré prend en force et se rapproche de l'obligation du fait qu'il y a des textes dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam a même ordonné aux femmes de sortir et de se rendre sur la place de la prière du Eid. Ajoutons à cela qu'il a même dit aux femmes indisposées, donc elles ne vont pas prier, d'assister au rassemblement des musulmans et de rester un peu en retrait. Mais la femme ne doit pas sortir parée. Umm Atiyah radiallahu anha nous dit: Kunna nu'maru. On nous ordonnait. Donc ça montre que le caractère légiféré de la prière du Eid, en plus d'être légiféré, il est au minimum fortement recommandé, si ce n'est obligatoire, car les savants ont divergé sur le jugement de la prière du Eid. Est-ce que c'est obligatoire de s'y rendre, ou bien est-ce que c'est une sunna mu'akkada fortement recommandée, il ne convient pas de la délaisser sans excuse valable? Beaucoup de savants disent que c'est le deuxième avis qui est prépondérant. C'est-à-dire que c'est une sunna mu'akkada, on ordonne aux gens de s'y rendre, mais celui qui ne s'y rend pas, il ne prendra pas à la base un péché particulièrement s'il a une excuse. Particulièrement s'il a une excuse. Donc elle nous dit, on nous ordonnait de sortir le jour du Eid. À un point tel que la femme, que la jeune fille jamais mariée, elle sortait. فتخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض. À un point tel que les femmes indisposées se rendaient au rassemblement des musulmans. Mais elles restaient derrière les gens. ويكبرن بتكبيرهم. Et les hommes faisaient le takbir et les femmes faisaient le takbir. Les hommes faisaient le takbir et les femmes faisaient le takbir. Tout cela à la recherche de la bénédiction de ce jour. Maintenant, passons au sunan du Eid. Qu'est-ce qu'il nous est légiféré? Qu'est-ce qu'il est bon de faire? Quels sont les comportements, les choses à savoir et comment avoir un maximum de récompenses et de hasanat? Premièrement, أن تخرج زكاة الفطر قبل ذهابك إلى مصلى العيد. Premièrement, de sortir zakat al-fitr avant de te rendre au lieu de prière. Ça, c'est le mieux à faire, de sortir zakat al-fitr avant de se rendre au lieu de prière. Quant à la permission, c'est un jour, deux jours avant. Quant à la permission, c'est un jour, deux jours avant. Mais nous ici, on cherche le meilleur. Le meilleur, c'est de sortir zakat al-fitr le matin du jour du Eid, avant de te rendre à la musalla. Avant de te rendre à la musalla. Deuxièmement, أن يتناول شيئا من الطعام قبل صلاة العيد, قبل خروجه لصلاة العيد. La deuxième sunnah, le fait de manger quelque chose avant de se rendre au lieu de prière, de la prière du Eid. C'est-à-dire arriver dans un autre état que l'état de jeûne, afin de marquer une rupture claire entre ton jour de saum, de jeûne, et ton jour de fitr. D'accord? Tout le mois précédent, tu sortais en état de jeûne. Là, il faut que tu sortes dans un état qui contredise ton état précédent. Donc, tu manges quelque chose. Tu manges quelque chose. Ibn Athaymin dit, la sunna, c'est de les manger witran. Si c'est des dates, tu en manges un nombre impair. Si c'est quelque chose, tu en manges un nombre impair. Donc ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de cela, c'est le hadith de Buraïda, radiyallahu anhu, dans lequel il nous dit « Kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam la yakhruj yawma eid al-fitr hatta yuftir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour du Eid tant qu'il n'avait pas pris quelque chose. Il ne sortait pas en état de jeûne. Yuftir, yani il mangeait quelque chose. ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. Et il ne mangeait pas pour le jour de Eid al-Adha tant qu'il n'avait pas fini la salat. Donc ici nous avons deux sunnah. Une sunnah quand c'est Eid al-Fitr, une sunnah quand c'est Eid al-Adha. Quelle est la sunnah lorsque c'est Eid al-Adha, al-Fitr pardon? Donc celle qui nous concerne là prochainement, Inch'Allah Ta'ala, c'est de marquer une rupture entre ton état pendant Ramadan et ton état en dehors de Ramadan. C'est un jour de fête, tu sors, avant de sortir, tu manges quelque chose. Tu n'es pas en état de jeûne lorsque tu sors à la musalla. Ça c'est la sunnah pour Eid al-Fitr. Par contre, la sunnah pour Eid al-Adha, c'est le contraire. La sunnah pour Eid al-Adha, c'est le contraire. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne mangeait pas tant qu'il n'avait pas prié. Il ne mangeait pas tant qu'il n'avait pas prié. Le troisième point, وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَجَمَّلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَجَمَّلْ الْمُسْلِمُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَيَلْبَسَ نَعَمْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ. La sunna, c'est quoi? C'est de porter ses plus beaux vêtements et de s'embellir. Porter ses plus beaux vêtements, ça concerne les hommes, et de s'embellir. Ici, la sunna, ce n'est pas forcément de porter du blanc. Mais ses plus beaux vêtements, ses meilleurs vêtements. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait deux hullahs qu'il portait pour l'Eid. Et Omar ibn al-Khattab a pris deux vêtements, de très beaux vêtements en soie, et les a donnés au prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, tiens, ya Rasulallah, pour que tu les portes le jour du Eid, ou bien dans telle et telle situation. Et il lui a dit, n'as-tu pas sûr, Omar, que ces vêtements-là nous sont interdits dans ce bas-monde et ils seront pour nous dans l'au-delà, ou bien ils sont pour eux dans ce bas-monde et pour nous dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'Omar ibn al-Khattab savait que le jour du Eid, la sunna, c'était de porter les plus beaux vêtements. C'est pour cela qu'il a voulu ça, le meilleur, pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour du Eid et le jour du Jum'a, portait de très beaux vêtements. C'est rapporté par Ibn Khuzaima. Abdullah ibn Omar, pareillement, portait ses plus beaux vêtements le jour du Eid, comme ça a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi, rahimahullahu ta'ala. Ainsi, le musulman prépare son beau vêtement pour l'Eid. Naam, il cherche le plus beau qamis, ou le plus beau boubou, naam, et la plus belle veste, la plus belle koulan soua, le plus beau chapeau. Il se parfume, il s'embellit, naam, il s'embellit. S'il a les moyens pour l'occasion même, il peut acheter un vêtement particulier pour cela, pour le Jumu'ah et l'Eid. Il achète de beaux vêtements pour les enfants, in tayassara dhalik, s'il a les moyens, wa hakadha. Ala kullin, as-sunna at-tajmil wa an talbasa ahsana thiyabik, de s'embellir et de porter les plus beaux vêtements. As'alullah min fadlih. Le quatrième point, mas'alatu l'irtisal, le fait de se laver. من المعروف الاغتسال ليوم الجمعة فما بال أو فما حكم الاغتسال وهل يستحب الاغتسال ليوم العيد. On connaît cela pour le jour du Jum'a, mais qu'en est-il du jour du Eid? Qu'en est-il du jour du Eid? Nafi' rahimahullah ta'ala, le servant d'Ibn Omar radiallahu anhuma, Abdullah, nous dit kana yartisulu qabla an yardua ila il musalla. Nafi' rapporte que Abdullah radiallahu anhu se lavait avant de se rendre au lieu de prière du Eid. Donc ça a été affirmé chez certains sahaba. Ça, c'est l'imam Malik qui le rapporte dans le Muwatta, rahimahullah. Également de certains parmi les pieux prédécesseurs. Saïd ibn Musayyib nous dit Sunnatul fitr thalath. Les choses recommandées le jour du fitr, du Eid al-Fitr, sont nombre de trois. Al-Mashi al-Musalla, marcher vers la place du lieu de prière. Wal-Akl qabl al-Khuruj, manger avant de sortir. Wal-Irtisal, et se laver. À quel moment pour obtenir, yani pour tomber en concordance avec cette chose qui est bonne de faire, à quel moment est-ce qu'il faut le faire? Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans le Mughni nous dit waqtul ghusli yani lil eid ba'da tulu' al fajr fi zahir kalam al khiraqi wal qadi wal amudi Donc, Ibn Qudama rahimahullah ta'ala nous dit ce qui est yani le temps du lavage pour l'Eid est après l'apparition de l'aube. Après l'apparition de l'aube. C'est-à-dire une fois que le Fajr est entré. Une fois que le Fajr est entré, à ce moment-là, si tu veux la yani tomber en concordance ou faire cette chose-là, ben c'est là où tu peux commencer le lavage. Pour dire quoi en fait ? Pour dire qu'il ne faut pas le faire dans la nuit. Sinon, ça sera un lavage, mais ça ne sera pas en relation avec ce qu'il est bon de faire le jour du Eid. Il faut que le Fajr soit entré. Comme pour le Ghusl du Jumu'ah. Le Ghusl du Jumu'ah, c'est le jour du Jumu'ah. Donc, pour pouvoir faire le Ghusl, il faut que le Fajr soit entré. À partir du moment où c'est l'heure du Fajr, tu peux faire le lavage du Jumu'ah. Pareillement ici, pour le lavage du Eid. Pour le lavage du Eid. Celui qui ne peut pas le faire et qui veut s'embellir et être le plus propre possible, il se lave malgré tout avant le Fajr. La cinquième, le cinquième point, أيذهب إلى المصلى سالكا طريقا ويرجع من طريق أخرى. La sunna, c'est qu'Allah, on emprunte un chemin et qu'au retour on emprunte un chemin différent. Est-ce que c'est compris? Tu vas à la musalla du Eid en empruntant un chemin. Mais au retour, tu empruntes un autre chemin. Mais au retour, tu empruntes un autre chemin. Certains savants disent que la sagesse, était que la terre va témoigner de ce que les serviteurs ont fait sur elle. Ainsi, celui qui part en empruntant un chemin et qui revient en empruntant un autre chemin, plusieurs parties de cette terre vont témoigner en sa faveur de ses bonnes actions. Vont témoigner en sa faveur de ses bonnes actions. Donc Ibn Hassan rahimahullah ta'ala nous dit que certains savants on dit que la sagesse était que les deux chemins pourront ainsi témoigner en sa faveur. Cette terre, Yom al-Qiyamah, informera de ce qui a été fait sur elle. Yom a'idhin tuhadithu akhbaraha. Ce jour-là, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah, elle va informer de ce qui a été fait sur elle. Toute personne qui a fait du bien recevra ce témoignage. Et à l'inverse, ceux qui ont péché sur la terre, il y aura également son témoignage. Et cela appelle le musulman à craindre Allah Azza wa Jal où qu'il soit. Car il sait que cette terre sur laquelle il marche, elle viendra un jour et elle va témoigner. Viendra un jour, elle va informer de ce qui a lieu sur elle. Fahani'an liman ukhbira an bi sujudi. Donc quelle bonne nouvelle à ceux qui se prosternent. Quelle bonne nouvelle pour ceux qui s'inclinent. Quelle bonne nouvelle pour ceux qui priaient sur la terre d'Allah Azza wa Jalla. Elle va témoigner en leur faveur. Quelle bonne nouvelle à ceux qui peuplaient les mosquées, les demeures d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cette terre-là, elle va témoigner pour eux. Subhanallah. Une personne pourrait se dire, mais la terre n'a pas de langue, comment est-ce qu'elle va témoigner? Antaqallah. Antaqahullah. Antaqahullah. C'est Allah Azza wa Jal qui la fera pas. Dans le Coran, dans Sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des choses semblables. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Et ils diront à leur peau, ils s'adresseront à eux-mêmes, pourquoi avez-vous témoigné contre nous-mêmes? Pourquoi avez-vous témoigné contre moi? Ces membres ses membres qui ont péché, ils vont témoigner, se retourner contre lui. Quelle sera la réponse ? Antaqana Allah. Alladhi antaqa kulla shay. C'est Allah qui nous a fait parler. Celui qui a fait parler toutes choses. Celui qui a fait parler toutes choses. Subhanallah. Le point suivant, at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar à voix haute et de le répéter. Le fait de dire Allahu Akbar à voix haute et de le répéter. À partir de quand ? À partir du fajr du jour du Eid. Jusqu'à quand ? Jusqu'à Salatul Eid. Est-ce que c'est compris ? Quand tu finis la salat du fajr, tu commences le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça, c'est une sira qui a été rapportée. Voici une variante qui nous a été rapportée. Une deuxième, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. C'est-à-dire trois fois. Mais la première version est la plus retenue. Donc, at-takbir, yawm al-eid, ila salat al-eid. Donc, le fait de prononcer at-takbir, le matin du eid, à partir du fajr, jusqu'à la prière. Kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yakhruj yawm al-eid, fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla, wa hatta yaqdiya as-salata, fa idha qada as-salata qata'a at-takbir. Retenez cela. Le prophète alayhi salatu wa sallam sortait le jour du fitr, Eid al-Fitr. Et il disait Allahu Akbar, il prononçait takbir. Jusqu'à ce qu'il arrive à la musalla. Puis quand il finissait salat, il arrêtait le takbir. Ici, on parle de quel takbir ? On parle du takbir muqayyad, du takbir qui est rattaché à une cause précise. On ne parle pas du takbir mutlaq. Il y a un dhikr qui est mutlaq, c'est-à-dire là tu es assis, tu dis le takbir, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu fais du dhikr. Ça, c'est, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'heure, c'est tout le temps, quand tu veux. Puis, il y a des moments spécifiques et des causes spécifiques où on a rattaché un dhikr, où on y a rattaché une invocation, une formulation particulière. Vous suivez ? Pour dire qu'à un moment particulier, tu dis une chose particulière, il faut une preuve. Sinon, tu le fais de manière générale sans restreindre un chiffre, sans établir un chiffre précis. Sans établir un chiffre précis. Sinon, tu sors de la sunna. Sinon, tu contredis la sunna. Par exemple, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est du dhikr. Tu le dis combien de fois tu veux par jour. Tu le dis combien de fois tu veux par jour. Il le dit et il s'avère qu'il arrive au chiffre 150. C'est excellent. Il le dit, il s'avère qu'il arrive au chiffre 300. C'est excellent. Mais maintenant, celui qui dit par jour, il faut dire 300 fois. Par jour, il faut dire 150 fois. Et il vise ce chiffre. On lui dit non. Tu ne peux pas viser un chiffre que le prophète ne nous a pas enseigné. Donc, tu vas viser après la prière 33 fois. Subhanallah. 33 fois Alhamdulillah. 33 fois Allahu Akbar. Ou bien 11, 11, 11. Ou bien tout ce qui est venu dans les hadiths. Mais tu ne peux pas viser un chiffre précis en pensant qu'il est méritoire sans avoir une preuve. Sans avoir une preuve de cela. Certains ont propagé dans les 10 dernières nuits les Laylatul Qadr. Alors il faut dire 3 fois qul huwallahu ahad. Comme ça, si ça tombe Laylatul Qadr, tu auras telle et telle récompense. Et il faut donner 1 euro par jour en sadaqa. Comme ça, si ça tombe Laylatul Qadr, tu auras telle et telle chose. Et ils ont propagé ce message. Subhanallah. Subhanallah. D'où est-ce qu'ils ont apporté ça? De quel verset, de quel hadith ils ont pris ça? On n'a pas le droit d'établir un chiffre précis de notre propre chef, puis de dire aux gens de le faire car c'est méritoire. Non. Soit on laisse de manière absolue, soit on le restreint parce qu'on a un texte. Soit on le restreint parce qu'on a un texte. Et cela a été rapporté par Ibn Abi Shayba fil Musannaf. Al-Albani a mentionné en silsilatu al-ahadith al-sahiha. Il y a une faiblesse, mais la multitude de chaînes de transmission font qu'il est accepté. Ici, il y a une remarque qu'il est bonne, ou bien qu'il est bon de mentionner, que les savants mentionnent. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit:
wa mimma yahsunu aw yuhsinu at-tadhkir bih أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع في الاجتماع عليه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض.
Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى nous dit ici, il y a une remarque qu'il est bon de mentionner en cette occasion, c'est que le fait de prononcer le takbir à voix haute il n'est pas légiféré de le faire en chœur. Le takbir à voix haute, il n'est pas légiféré de le faire en chœur, c'est-à-dire de viser l'union des différentes voix pour la prononciation de ce dhikr. Hada ghayru mashru', c'est pas légiféré. Certains font ce dhikr et volontairement ils le disent ensemble, en groupe. Non, chacun dit son dhikr. Chacun fait son takbir. Et si ça tombe en concordance, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas viser le fait de dire cela ensemble. Toi, tu dis dans ton coin, lui, il dit, même ils sont à côté les uns des autres, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il fait du takbir, ou bien il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Lui, il le dit pour lui, il le dit pour lui. Et c'est forcément, certains vont tomber ensemble, mais ce n'est pas visé. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit ensuite, وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور فلنكن على حذر من ذلك.
Il dit c'est pareil pour tout ذكر qu'il est légiféré de dire à voix haute. Sachez qu'on ne doit pas le dire en cœur. Sachez qu'on ne doit pas le dire en cœur. On doit donc être sur nos gardes face à cela.
Par exemple, la talbiya pendant l'umra ou bien le hajj. Le premier pilier, c'est quoi? C'est l'ihram. Et ensuite, tu dis la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. La sharika lak. La sunna, c'est de crier cela. De crier à voix haute cela. Mais dans le cas où le moyen de transport, il ne faut pas viser le fait de le faire en cœur. Chacun le dit pour soi. Chacun le dit pour lui-même. Il y en a quoi comme exemple? Quoi d'autre comme exemple, vous voyez? Et le meilleur exemple à mentionner, c'est ça. C'est pour Salat al-Eid. Quand les gens attendent à la Moussalla. Tu trouves même dans certains endroits que l'un passe pour motiver les gens. Comment est-ce qu'il motive les gens? Il faut en cœur. Il passe avec le micro, il chante cela. Naam, il motive les gens. De motiver les gens, il n'y a pas de problème, c'est un bien. Kabbiru. Mais le fait de le dire en cœur, cela n'est pas légiféré. Tu dis aux enfants, dès que tu sors de chez toi, tu leur dis de prononcer takbir à voix haute. Ils sortent des choses avec takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jusqu'à la Moussalla, il dit takbir. Ensuite, arrivé à la Moussalla, il s'assied, il dit takbir. Lorsque l'imam se lève pour faire, quand il arrive pour faire la salat, c'est là qu'on arrête le takbir. Quant aux femmes, elles prononcent cette takbir sans élever la voix. Quant à la sira du takbir, on l'a mentionné, la formulation, comme Mada, ça a été authentifié de Ali ibn Abi Talib. De Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma et autres. Abdullah ibn Saoud nous dit Waja'an, yani c'est venu de Abdullah ibn Saoud plutôt radiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Si tu fais la liaison, tu diras Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.
une autre façon en disant trois fois Allahu Akbar, mais la première est plus répandue. Dans Eid al-Fitr et Eid al-Adha, la base c'est que les sunnans sont les mêmes, sauf quand il y a un texte qui vient appuyer une sunna pour un des deux Eid. Pour le takbir, c'est plus fortement recommandé pour quel Eid? Pour quel des deux Eid c'est plus fortement recommandé? Yani Akad al-Fitr. Pourquoi? C'est quoi la preuve? Est-ce pas entendu? Al-Adha? Non. Al-Fitr. Pourquoi? Les deux, c'est recommandé. Mais pour Eid al-Fitr, c'est Akad. C'est encore plus fortement recommandé. Dans Surat al-Baqarah, le verset 185. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ أَوْ عَلَى مَا هَدَاكُمْ نَعَمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc on nous mentionne dans le Coran le takbir à la fin de Ramadan. À la fin de Ramadan. De par la guidée qu'Allah nous a accordée et afin qu'on soit reconnaissant. C'est pour cela qu'on dit que c'est plus fortement recommandé. Une sunna. أن تكون صلاة العيد أن تكون صلاة العيد في مصلى أي صحراء خارج المسجد. La sunna suivante c'est de faire salat al-Eid en dehors du masjid, sur un terrain à l'extérieur. Jamais le prophète sallam fait salat al-Eid dans un masjid. Il faisait cela à l'extérieur. Abu Saïd radiyallahu anhu nous dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. Le Bukhari Muslim nous rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام sortait sur un terrain pour prier l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. Et il n'a pas été rapporté de lui qu'il a prié salat al-Eid dans la mosquée sans excuse. Dans la mosquée, sans excuse. Donc, si les musulmans ont un endroit où ils peuvent faire salat al-Eid à l'extérieur, ils le font. Avec la sono qu'il faut, avec l'endroit qu'il faut, et ainsi de suite. S'ils n'ont pas, non, mais qu'il y a une nécessité, alors ils le font, ils peuvent à la mosquée ou dans un yani ou autre. Pour notre part, bihamdillahi azza wa jal, wa bifadlihi, wa bimahdi fadli, on nous accorde le gymnase. D'accord? On nous accorde le gymnase. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à avoir un bon son pour que les gens qui s'y trouvent puissent s'entendre correctement. Car souvent il y a un problème de son. Donc je suppose que les hommes sont à la mosquée, plus une partie, et que les femmes derrière au gymnase. Un point à savoir, هذا يوم عيد. Ça, c'est un jour de fête. Il n'est pas permis de jeûner ce jour-là. Même celui qui a une expiation à faire et qui doit jeûner 2 mois consécutifs, le jour du Eid, il s'arrête. Puis il reprend. Puis il reprend quand il peut selon l'Eid. Et Eid al-Fitr, c'est un seul jour. C'est-à-dire que le lendemain, tu peux jeûner, par exemple. Alors que l'Adha, il y a l'Eid, le 10e jour, et ensuite il y a Yom al-Tashriq, qui sont des jours aussi où tu manges et tu bois. Il est interdit de jeûner en ce jour. Omar ibn Khattab radiallahu anhu est arrivé à la musalla un jour, puis il a fait la salade, puis il a fait la khutbah. Et il a dit Inna hadhay yawman. Vous avez 2 jours. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a interdit le jeûne. Deux jours, c'est interdit de jeûne. يوم فطركم من صيامكم, le jour où vous rompez le jeûne de Ramadan, عيد الفطر. والآخر يوم تأكلون فيه في نسككم, le jour où vous mangez dans vos rites. C'est-à-dire عيد الأضحى, probablement avec أيام التشريق. Car le Prophète m'a dit, ce sont des jours de fête où on mange et on boit. Et on fait du zikr plutôt. On mange, on boit et on fait du zikr. Ça a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Une question qu'on se pose à nouveau, et chaque année, quel est le temps de la salat du Eid? À partir de quand on peut faire salat ou l'Eid? Le temps de salat ou l'Eid, عند ارتفاع الشمس بعد طلوعي بعد طلوعها قدر رمح. Le temps, le commencement de temps de salat al-Eid, c'est lorsque le soleil s'est bien levé. Yani il est sorti, 15 minutes après, il se lève, bien. À ce moment-là, le temps commence. Le temps de la prière commence. C'est-à-dire que tu peux faire salat al-Eid à partir de ce moment-là. Il s'étend jusqu'à le déclin du soleil. Une question. Est-ce que si on arrive à l'endroit de la prière du Eid, est-ce qu'on prie de rak'a avant de s'asseoir ou pas? Quelle est la réponse? Ma hiya sunnah? Ça dépend. Si c'est à l'extérieur de la mosquée, fi Sahara, la sunnah c'est de s'asseoir sans prier de rak'a. C'est de ne pas prier avant la venue de l'imam. On s'assoit directement. D'accord? Ensuite, si c'est à la mosquée, on va faire de rak'a, mais pas pour la sunnah en relation avec salat al-Eid. Mais pourquoi? Parce que le Prophète m'a dit de ne pas s'asseoir. Que celui qui souhaite s'asseoir à la mosquée, qu'il ne le fasse pas avant d'avoir prié de rak'a. C'est pour cela qu'on va faire de rak'a. C'est pour pouvoir s'asseoir à la mosquée. Sinon, la sunna, c'est de ne pas prier avant, de ne pas prier dans la musalla avant l'arrivée de l'imam. Contrairement à ce que font beaucoup. La sunna, c'est de ne pas prier. Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu nous dit: Ya ayyuha an-nas, innahu laysa min as-sunnah an yusalla qabla al-imam. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Dans un autre endroit, il a dit qu'il est faible, donc je ne sais pas quel est son dernier avis. Mais qu'Abdullah ibn Saoud a dit: ô vous les gens, ne faites pas partie de la sunna de prier avant la venue de l'imam. Quoi qu'il en soit, c'est la réalité. Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit: وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد أو صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليه أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit: je t'informe que la prière des deux Eid, si elle est priée à la mosquée, ce qui est légiféré pour celui qui s'y rend est de prier tahiyat al-masjid, c'est-à-dire faire deux rak'a avant de s'asseoir, même si c'est dans un temps où c'est interdit de prier à la base. Likawniya min zawati al-asbab, car il y a une cause. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا خلا أحدكم المسجد فلا يجلس نعم حتى يصلي ركعتين. C'est un autre ventre à la mosquée qu'il ne s'assied pas avant d'avoir pris deux unités de prière. Par contre, si c'est à l'extérieur de la mosquée, ce qui est légiféré, c'est de ne pas prier avant d'avoir prié la prière du Eid. car ça n'a pas le jugement de la mosquée. Et car il n'y a pas de sunna avant la prière du Eid. Un autre point, il n'y a pas de adhan, il n'y a pas d'iqama. Il n'y a pas de adhan, il n'y a pas d'iqama. Dans le recueil d'Ibn Majah, Cheikh Al-Albani l'authentifie, rahmatullahi alayhima, Ibn Abbas radiyallahu anhu dit an Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla yawm al-Eid bi ghayri adhan wa la iqam. Le prophète sallam a prié la prière du Eid sans adhan et sans iqam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا أذان والإقامة. Quand il arrivait à l'endroit de la prière, il faisait la salat sans أذان et sans إقامة. ولا الصلاة جامعة. En fait, quand on appelait à l'union des musulmans, le prophète sallam disait d'appeler et on disait الصلاة جامعة. C'était l'expression. Par exemple, on va voir la prière de l'éclipse ou autre. D'accord ? On va informer les gens, on va dire As-salatu jami'a. D'accord ? C'est pour appeler en fait au rassemblement des musulmans. Ben là, pour salat al-Eid, tu ne fais pas cela. Ni adhan, ni qama, ni cela. Puis quand le prophète alayhi salatu wassalam finissait la salat, il se tournait vers les gens et il les exhortait alors qu'ils étaient assis. Et il commençait la khutbah en disant Alhamdulillah. C'est la sunnah, Alhamdulillah, ou bien Inna Alhamdulillah. Une question intéressante, quel est le nombre minimum pour faire salatul Eid? Si les musulmans habitent dans une campagne, à partir de quand on va leur dire de faire salatul Eid? Andaman, qui a la réponse? Là, je puise mes dernières forces. Dépêchez-vous, on va bientôt arrêter. Naam. Combien? 12 personnes? 13 personnes? 2 personnes? 3 personnes? Taïr. Il est légiféré le nombre minimum de personnes pareillement que pour Salat al-Jum'ah. Pareillement que pour Salat al-Jum'ah. Comme tu jeûnes probablement, je ne vais pas te fatiguer, tu es trop loin pour répondre. Hein? Je connais la règle. J'ai de la rahma envers vous, donc je ne vous intéresse pas quand vous êtes trop loin de l'assise. En plus, en état de jeûne, ça va vous donner encore plus soif. Qala ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ikhtalafa al-ulama. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit les savants ont divergé. Les savants ont divergé rahmatullahi alayhim fil adad alladhi la budda minhu fi salat al-jumu'ah. Donc les savants ont divergé quant au nombre minimum requis pour accomplir la prière du Jumu'ah, sachant que c'est la même chose pour l'Aïd. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا. Certains ont dit 40 personnes. Donc s'ils se retrouvent dans une campagne où il y a 30 personnes, ils ne font pas le Jumu'ah. وقال بعض العلماء يكفي 12 رجلا. D'autres ont dit c'est suffisant d'avoir 12 personnes. Quelle preuve ils ont utilisé? Ils étaient avec le prophète alayhi salat wa salam, ensuite ils sont partis et seulement 12 sont restés. Ils ont donc dit c'est le minimum requis. En fait, il y a eu un commerce, il y a eu une tijara. Et beaucoup se sont levés et sont partis. Combien restait-il de personnes? 12. C'est pour ça que dans Sourate al-Jumu'ah, qu'est-ce qu'on récite? Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez compris là ce que je viens de dire? Pourquoi ils ont dit 12? Ben maintenant, quand vous allez entendre Sourate al-Jumu'ah, vous allez comprendre. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Ça fait référence à ça. Allez, lorsqu'ils voient un commerce et ainsi de suite, ils se lèvent et ils te laissent. Alors que ce qui est auprès d'Allah, c'est meilleur. Quand ils sont partis, combien de personnes sont restées en présence du prophète, alayhi salatu wassalam? 12. C'est pour cela que ces servants-là ont dit 12. Et ça montre donc que 12, ce nombre 12 est suffisant. Mais est-ce que ça montre que c'est le chiffre minimum? Non, ça montre que c'est le chiffre suffisant déjà. Mais pour dire que c'est le minimum obligatoire, il faut encore des preuves. Il faut encore des preuves. Ça, c'est bon pour dire quoi? 12, c'est sûr que c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant pour dire moins de 12, on ne se réunit pas pour le Jumu'ah. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَكْفِي فِي عَدَلِ جُمُعَةِ ثَلَاثَ. Parmi les savants, certains ont dit le nombre 3 est suffisant. S'il y a فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ قَرْيَةً لَيْسَ فِيهَا مُسْتَوْطِنُونَ سِوَى ثَلَاثَةِ نَفَرْ فَإِنَّهَا تَقُومُ الْجُمْعَةِ. À supposer qu'il y ait dans un lieu, dans une campagne, trois personnes, ben c'est suffisant pour qu'ils fassent le Jumu'ah. Mais s'ils sont dans une campagne où il y a moins de trois personnes, il n'y a que deux musulmans, alors ils ne font pas le Jumu'ah. Subhanallah. Allahu Akbar, tu habites dans un endroit, il y a moins de trois musulmans. Peut-être qu'il y a, Allahu Alam, mais ils ne font pas le Jumu'ah. Parce que le chiffre minimum, c'est trois. Parce qu'à ce moment-là, ils seront pluriels. À partir de 3, ils sont pluriels. Qui sont ces 3-là? Il faut l'adhan. Naam. Idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah. Il faut celui qui fasse al-nida, c'est le mu'adhdhin. Ça fait 1. D'accord? Il faut celui qui répond au nida. Ça fait 2. Et il faut qui pour le khutbah? Al-Khatib. Ça fait 3. D'accord? Pourquoi on va se baser sur 3 et sur le pluriel? Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah. Idha nudiya lis-salah. Il faut al-nida. Celui qui fait al-nida, il munada. D'accord? Il faut appeler. Donc celui qui appelle, celui qui répond à l'appel. Et il faut celui qui yani fas'au ila dhikrillah. Et il faut celui qui va dire le dhikrullah. C'est le khatib. Est-ce que c'est compris? Yani les fuqaha subhanallah, ils prennent les textes et ils méditent le Coran pas comme on le médite. Tous yani tout ce que je viens de dire, ils l'ont tiré de ça. Quand on vous appelle, donc il y a celui qui appelle, ça fait 1. Il faut celui qui va prononcer cela, c'est le khatib. Celui qui a appelé, celui qui a été appelé, ça fait 3. Ibn Asami nous dit ça, c'est l'avis prépondérant, c'est de dire que c'est 3 personnes au minimum. La Buddha min khatib ou la Buddha min mad'ou. Donc, pour faire salat al-Eid, il faut qu'au minimum dans l'endroit, ils soient 3. S'ils sont moins que 3, il n'y a pas salat al-Eid. S'ils sont 3, ils doivent se réunir et faire salat al-Eid. Ils doivent se réunir et faire salat al-Eid. Maintenant, salat al-Eid, sifatou. Quelle est la description? Comment il se fait la prière du Eid? يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين. صلاة العيد, l'imam arrive et directement il enchaîne صلاة العيد. Directement il enchaîne صلاة العيد. Le discours il est après. Et صلاة العيد c'est que la prière. Quant au discours, c'est la suite. Mais celui qui est venu, il a fait salatul Eid, il est parti directement. C'est pas la chose à faire, on n'encourage pas à ça. Mais on dira qu'il a fait salatul Eid. L'imam arrive et directement, les gens se lèvent. Ils arrangent les rangs et elle se compose de deux unités de prière. Salatul Eid, elle se compose de deux unités de prière. La lecture y est à voix haute, comme le Fajr. Et il y a des awa'id, il y a des takbirat qu'on ajoute. Il y a takbirat ou l'ihram. Ensuite, il ajoute 6 takbirat. Donc en tout, ça va faire 7. Il vient, il dit Allahu Akbar. Puis Allahu Akbar 6 fois. Est-ce que c'est compris? Celui qui est derrière, après le takbir, le premier takbir de l'imam, il va dire takbiratul ihram. Il y rentre en prière. Puis après chaque takbir de l'imam, il ajoute. Dans le cas où il vient en retard, il dit Allahu Akbar, le premier takbiratul ihram. L'imam est au quatrième takbir, cinquième takbir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va dire 1 et 2. D'accord. Après, il fait quoi? Est-ce qu'il y rattrape? Non. Parce que ces takbirat-là sont des sunan. Et la sunna, elle vient que dans son temps. Wafat mahalluha. Fata mahalluha. Son temps, il est passé. Donc, tu ne les rattrapes pas. Tu dis ce que tu as atteint. Et tu ne rattrapes pas les takbirat passés. Est-ce que c'est compris? Par exemple, une sunna après la prière, dire 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. D'accord. Dans le cas où il est sorti de la mosquée, il a préféré discuter avec son voisin ou autre. Khalas fata mahalluha. C'est trop tard. Ce dhikr-là, il a un temps. Si tu ne le fais pas dans son temps, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. C'est compris? Tu dis pas, là, je vais discuter avec mes amis, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand j'arrive chez moi, de toute façon, je le rattrape. Quand je serai en voiture, je le rattrape. Non. Fata mahallu. Tu as perdu ce temps-là. Tu as perdu ce trésor. Après la salat, pendant l'adhan et l'iqama, c'est des temps précieux. Il faut les rentabiliser. Et parmi les choses tristes qu'on trouve à la mosquée, c'est qu'après l'adhan ou après la salat, tu entends les musulmans faire du bruit au lieu de s'occuper du dhikr. Et lui, il vient à la mosquée tous les jours. Il voit son ami tous les jours au masjid. Mais pourtant, il n'arrive pas à s'empêcher de lui parler entre l'adhan et l'iqama, de lui parler après la salat. D'accord, mais le dhikr, il y a le dhikr. Pourquoi tu laisses le temps passer? Et je vais vous raconter une histoire avec Ibn Baz et Ibn Uthaymeen. Certains parmi les ulama racontent que, comme vous le savez, autour des ulama, c'est bon d'être personne. Donc chaque talib ilm, chaque questionnaire, il essaye de trouver la faille pour venir trouver l'occasion de lui poser la question. C'est très difficile. Il faut avoir soif, être déterminé, être endurant et patient. Pour poser une question, il faut faire beaucoup d'efforts. La science, elle ne se prend pas comme ça en claquant des doigts. Et un jour, un savant a vu, j'ai oublié, c'est Ibn Baz ou Ibn Uthaymeen, rahimallah, après l'adhan, ou après la prière obligatoire, et il l'a vu seul, il a dit, ah là, c'est l'occasion rêvée. Il est arrivé, il a vu qu'il était libre, et que les gens étaient là, mais il le laissait. Il a dit, ah là, c'est l'occasion en or. Et il est venu, lui a parlé. Les gens l'ont tous regardé, étonné du courage et de l'audace qu'il a eu. En fait, c'était connu que si tu lui parles au shir à ce moment-là, c'était dangereux pour toi. D'accord? C'est pour ça que tous ses élèves à ce moment-là, personne ne lui parlait. Mais lui, en tant qu'étranger à cette... yani, lui, il venait de l'extérieur. Donc, il s'est dit, c'est une occasion en or. Alors qu'en réalité, le shir ne permettait pas qu'on lui enlève ce moment en or. C'est le moment de dhikrullah, c'est le moment de construire son au-delà. C'est le moment de construire son au-delà. Après la prière obligatoire, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Tu fais tes adhkars. Quand tu as fini entièrement tous tes adhkars, il te reste combien d'heures dans la journée, subhanallah? Combien d'heures dans la nuit? Khalas, tu vas parler à celui que tu voulais parler, qui t'a tant manqué, ton ami, fillah, ton frère, fillah. Wadah, subhanallah. Certains au masjid, ils restent avec leurs sahab, dans le masjid, ils discutent. L'imam arrive, pendant l'iqama, il discute encore avec son ami. Allahu Akbar. Hatta l'iqama, hatta le temps de l'iqama, il n'arrive pas. Ensuite, l'imam fait takbir, ils disent encore des mots. Ya subhanallah. Puis ils rentrent dans la salat. Quand il y a le taslim, maximum, astaghfirullah trois fois, puis il reprend la discussion d'avant. La salat. Ensuite, tu vas voir l'imam, il dit, j'arrive pas à me concentrer dans la salat, tu peux me donner un remède? T'arrives pas à te concentrer dans la salat? Allahu Akbar. Tu veux un remède? Allah al-musta'an. Ce temps-là, si seulement il donnait au Coran, il aurait des millions de hasanat. Vous pensez que c'est fini l'histoire? C'est pas fini. Sur le chemin, quand il prend sa voiture, il met le haut-parleur et parle avec son ami. Lui, il prend sa route, l'autre, il prend sa route. Il parle encore avec lui. Il parle. Il révise pas la science, hein. C'est pas ça. Celui qui révise la science, il a appris que dans la science, il y a des moments à respecter, sinon il respecte ces moments-là. Il arrive chez lui au téléphone. Femme et enfant. La femme et les enfants en double appel. Il reste au téléphone avec son ami. Il est chez lui. Il rentre chez lui au téléphone. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ensuite, il se fait saluer. Sa fille, elle lui saute dans les bras. Il reste au téléphone. Naam. J'ai dit la fille, parce que le garçon, il dit, Abi, tu m'as ramené quoi? Hein? C'est vrai, akhi, ou pas? Allahumma barik fihima. La fille, elle saute dans les bras. Et le garçon, il dit, Abi, tu m'as ramené quoi? Quand il est un peu mieux éduqué, plus guidé, il quand même salam et il embrasse. Amma la fille, après avoir eu ses enfants, ahsan istiqbal. Tu recevras pas un meilleur istiqbal que la fille qui a grandi dans le khayr. Hein? La femme, le meilleur istiqbal, c'est peut-être 3 mois de mariage ou le début. Naam, après, il manque ça dans les courses. Wadah. Donc la fille que Allah te donne, ça c'est un des meilleurs trésors. Ya'tani biha. Cette fille-là, si tu l'éduques, tu dépenses pour elle, et tu es bon envers elle, sache que le Prophète a dit, celui à qui Allah accorde 3 filles, qui les éduque, qui passent avec elle et ainsi de suite, elles seront pour lui une protection contre le feu de l'enfer et Malqiyam. Allahu Akbar. Al-banat, hiba min Allahi Azza wa Jal. Les filles ont été appelées dans le Coran un don d'Allah. Un don. On n'a pas dit Allah donne à qui il veut des enfants. On a dit Allah fait don à qui il veut. Yahabu liman yasha wa inatha. Dans Surat al-Shura. Et on a commencé par la mention des filles avant la mention des garçons. Tout cela pour contredire les idées reçues qu'il y avait dans la Jahiliyyah. Il détestait les filles, les enterrées vivantes. Hein? Et pour d'autres sagesses. Ala kulli hal, la suhba wal ukhuwa fillah ni'ma. C'est un grand bienfait. Mais il faut mettre chaque chose à sa place. Il ne faut pas sacrifier le dhikr et les hasanat. Et accorder à chacun son droit. Comment est-ce qu'on fait salat al-Eid? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ensuite, on enchaîne 6 takbir en les répétant après l'imam. Puis, l'imam récite al-Fatiha et il ajoute. La sunna, soit il récite qaf, iqtarabat al-sa'a, wa anshaqqa al-qamar, ou il récite sabbih isma rabbika al-a'la avec al-ghashiya. Ça, c'est la sunna. Ou il récite ce qu'il veut. Il récite ce qu'il veut après le Fatiha. Dans la deuxième raka'a, donc on a expliqué la première raka'a. Dans la deuxième raka'a, après le qiyam, il va dire 5 takbirat. Donc dans la première raka'a, combien? 6. Et après le qiyam, il en dira 5. Il en dira 5. Parce qu'il aura dit takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, il ne dit pas une fois debout. C'est pour ça que j'ai dit après le qiyam, 5. En se levant, il dit takbir. Une fois debout, il en dit 5. Ça fait combien? 6. Et pour la première en tout, ça fait combien? 7. Parce qu'il y a takbiratul ihram et ensuite 6 zawaid. Et dans la deuxième, il y a takbiratul intiqal, et ensuite 5 zawaïd. D'autres savants disent d'autres chiffres. Quoi qu'il en soit, c'est recommander ce qu'on ajoute en plus. C'est pour cela que celui qui arrive en retard, il ne lui est pas légiféré de rattraper ses takbirat. Parce que ce sont des sunan et que le temps est passé. Et il est recommandé à l'imam, au khatib du Eid, de réciter régulièrement soit qaf iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar ou sabbih isma rabbikal a'la il-ghashiya, pour que les gens aient connaissance de cette sunna. Pour que les gens aient connaissance de cette sunna. On a dit qu'il y avait 7 takbirat à la première et 5 après takbiratul intiqal à la deuxième. Quand est-ce qu'il va dire du'a al-istiftah? La sunna, quand tu, dans la prière, c'est après avoir dit Allahu Akbar, tu dis du'a al-istiftah, subhanak Allahumma, ou autre. Hein? Donc ici, pour Salat al-Eid, à quel moment est-ce qu'il le dira? Est-ce que c'est après les 6 zawaïd, ou est-ce que c'est après le takbiratul ihram? En d'autres termes, est-ce qu'il dit Allahu Akbar, ensuite il dit du'a al-istiftah, ou bien quand il a fini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, à ce moment-là seulement il dit du'a al-istiftah? Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, nous dit yastaftihu ba'da takbiratil ihram wa hakadha qala ahlul ilm والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبير إلى آخر تكبيرة فلا بأس. Ibn Uthaymin dit, ça se dit après le premier takbir, takbiratul ihram. Ça se dit à ce moment-là. C'est ainsi que on dit les savants. Puis il dit, mais cette affaire est vaste. C'est-à-dire, on n'est pas sévère dans cela. Je peux le dire même à un autre moment. Même s'il attend la fin de tous les takbirat de la première. Dans la première unité, quand il commence la salat, et qu'il le dit, alors il n'y a pas de mal. Alors il n'y a pas de mal. Est-ce qu'il lève ses mains quand il dit des takbirat? Quant à takbirat al-ihram, na'am. Mais pour la suite, est-ce qu'il lève ses mains ou pas? Zahaba jumhur ul-ulama min as-salaf wal-khalaf ala annahu yarfa'a ala an narfa'a al-yadayn في التكبيرات الزوائد في العيدين هو السنة والأولى. La plupart des savants anciens et contemporains sont d'avis que de lever les mains dans les takbirat après takbiratul ihram pour les deux عيد, c'est la sunna et c'est le mieux à faire. C'est la sunna et c'est le mieux à faire. Que dire entre les différents takbirat? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Du fait que rien n'a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, le mieux c'est de ne rien dire de particulier. Le mieux est de ne rien dire de particulier. Et ça c'est la réponse de Cheikh Abdel Mohsen Abbad. Il a été questionné sur cela et il dit rien. Ibn Athimin a été questionné sur cela, il a dit la'alamu sunnatan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi dhalik. Je ne connais pas de sunna qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Lakin al-fuqaha, puis il dit, mais les juristes consultent ont dit qu'il louait Allah et faisait ses éloges, priait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit par exemple alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alayhi, et ainsi de suite. Celui qui se trompe dans le nombre de takbirat, est-ce qu'il fait sujud sahou? Celui qui se trompe dans le nombre de takbirat, est-ce qu'il fait sujud sahou? Cheikh Abdel Mohsen Abbad a été questionné sur cela. Il a dit falahu dhalik. S'il veut, il peut le faire. Yani il peut faire cela. Celui qui rate salatul Eid, est-ce qu'il peut la rattraper? est-ce qu'il peut la rattraper? Mais avant cela, quand est-ce qu'on considérera la personne comme ayant raté Salat al-Eid? S'il vient après le dernier recours, s'il vient après le dernier recours, donc il n'a pas atteint l'imam en pouvant le rejoindre dans le recours, il a raté la deuxième raka'a, donc la salat du Eid. Donc la salat du Eid, comme pour le Jum'a. Certains savants ont dit non, c'est pas rattrapable. D'autres ont dit oui. D'autres, on peut dire, ont dit oui. Cheikh Salah Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit: Man fatatuhu salatul Eid, fala ba'sa yaqdiya. بأن يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وبعد تكبيرة القيام من السجود في الركعة الثانية وأجهر فيها بالقراءة ويصليها منفردا ومع جماعة. شفوزان حفظه الله تعالى dit il peut faire cela, il la rattrape à voix haute en ajoutant les تكبيرات, et il prie cela seul ou en groupe. Seul ou en groupe. D'autres ont dit non. D'autres ont dit non, ça ne se rattrape pas. Une question qui est souvent posée, c'est le jugement des félicitations. Est-ce qu'on peut féliciter les gens le jour du Eid? Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, nous mentionne dans Fathul Bari que Jubayr ابن نفير أدي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. Les compagnons du prophète ﷺ, lorsqu'ils se rencontraient le jour du Eid, se disaient mutuellement qu'Allah accepte de nous et de toi, de nous et de vous, c'est-à-dire les bonnes actions. Et il fut rapporté également cela de Abu Umam al-Bahili, c'est-à-dire le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait le jour du Eid à ses compagnons: Taqabbal Allahu minna wa minkum. Et les savants ont permis cela, comme le Mahmed et d'autres, de féliciter le jour du Eid les gens. Ça a été rapporté, certains avec des chaînes de transmission discutables, de certains sahaba. Et la base, c'est la permission. C'est un jour de fête, donc de dire une bonne parole, qu'Allah fasse revenir ces jours à nous, avec la joie, la santé, la foi, qu'Allah accepte de nous et de vous. Toute parole, il y a du bien. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, disait lui, il avait une position médiane. Il disait, ana la ubadi ahad. Il disait, moi je ne commence pas, si je croise quelqu'un, je ne commence pas par lui dire cela. Mais lorsqu'il me dit, je lui dis. Est-ce que c'est compris? Du fait qu'il n'y a pas de hadith, il disait, moi je ne le dis pas directement aux gens. Mais ceux qui me le disent, je leur dis. D'accord? Tu ne dis pas, par exemple, certains ont un certain manque de sagesse, tu as un manque de science. Il va lui dire, l'autre, tu lui dis par exemple, Taqabbal Allahu minna wa mink. Non, ça c'est pas son endroit. Tu n'as pas dit de faire une adoration pour que tu demandes son dalil à ce point-là et de cette manière-là. Si ça avait été une adoration, tu aurais été dans ton droit, mais ce n'est pas la manière de faire. C'est pas la manière de faire. Dans le hadith, il lui a dit par exemple, Mahamalaka ala hada, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Allez, avec douceur, avec tact. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle l'embellisse, sans qu'elle ne l'embellisse. Parce que de répondre à une félicitation, c'est comme on dirait obligatoire. Quant au fait de commencer toi par les félicitations, c'est pas obligatoire. Et on va s'arrêter sur une sunna. On continuera inshallah ce soir avant Tarawih, 15 minutes. Une sunna qui est vraiment, vraiment peu pratiquée malheureusement. Et certains parmi les anciens disaient Hadi sunnatun azizatun ilay ila qalbi. C'est une sunna que j'affectionne tout particulièrement, qui m'est très 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 chère. C'est quoi? C'est qu'en rentrant chez soi, faire deux raka'a. Quand tu rentres de la musalla du Eid, quand tu rentres, tu fais deux raka'a. D'accord? Avant, la sunna c'est ça. Avant tu pries pas, après tu pries deux raka'a. Quand tu viens, tu t'assois, tu pries pas, deux raka'a. Et quand tu rentres chez toi, tu pries deux raka'a. Cheikh Al-Albani nous mentionne qu'Abu Sa'id Khudri dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli qabla al-Eid shay'a wa idha raja'a ila manzili salla raka'atayn » C'est rapporté par Ibn Majah, Ahmed et d'autres. Et il est sahih. Le prophète sallallahu alayhi, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne priait rien avant l'Eid. Et lorsqu'il rentrait chez lui, il priait deux unités de prière. Et il est, ce hadith-là est Hassan. Comme Al-Hafidh l'a mentionné en Bulugh al-Maram. Et si vous trouvez des choses ou des gens qui disent de ne pas prier après l'Eid, le sens est dans la musalla. Est-ce que c'est compris? Les textes que vous verrez mentionner le fait de ne pas prier après l'Eid, c'est-à-dire comme le fait de faire deux unités de prière après le dhuhr à la mosquée, par exemple. Non. Mais c'est chez lui qu'il les fait. Déjà, la base, hein, c'est que les sunan, le mieux c'est de les faire chez soi, pas à la mosquée. Et les prières obligatoires sont obligées de les faire à la mosquée. Quel est le jugement de prier pendant de parler pendant khutbatul Eid? Pendant khutbatul Jum'a, c'est interdit. Mais, et la personne n'a pas les récompenses. Mais quel est le jugement de parler pendant la khutbah du Eid? Ibn Athimin, rahimahullah ta'ala, a dit les savants ont divergé dans cela. Certains ont dit c'est interdit. Et d'autres ont dit c'est permis. Car d'assister à la khutbah du Eid, je dis bien, pas la salat, mais la khutbah après la salat, c'est pas obligatoire. Ça n'est pas obligatoire. De ce fait, ces savants ont dit, donc d'écouter la khutbah du Eid n'est pas obligatoire. Et il ne fait nul doute que d'écouter est le bon comportement et la chose à faire. Donc voici, il y a une divergence entre eux, entre les savants. Je vais finir avec cela. Donner de l'argent aux enfants, c'est une question, je précise, c'est pas un ordre ou un conseil. Donner de l'argent aux enfants le jour du Eid. Naam. Quel est le jugement de cela? Parce que c'est la coutume chez nous. Le jour du Eid, les enfants attendent, les poches vides, larges, et les mains ouvertes, jointes, comme quand on fait dua, que le père fasse la tournée des billets dans certaines familles, pièces chez d'autres. Naam. Qu'en est-il de cela? La réponse, la haraja fi dhalik. Ça, c'est la fatwa de l'Ejnad Da'im à l'Assemblée des grands savants. Il n'y a pas de mal dans cela. Il n'y a pas de mal dans cela. Retenez cette règle-là. Les coutumes en islam sont permises tant qu'elles ne contredisent pas une chose de l'islam. Et les coutumes en islam sont permises tant qu'elles ne contredisent pas une chose de l'islam. Par exemple, chez nous, dans le mariage, c'est pas le père qui marie la fille, c'est le frère du père. C'est pas le père qui marie sa fille, c'est pas le wali, c'est un mahram, c'est son oncle paternel. Quel est le jugement de faire ça? C'est la coutume. C'est permis. C'est permis. Wadah? C'est une coutume, c'est permis. Donc ils donnent quelques pièces aux enfants, yani pour les rendre heureux, pour qu'ils puissent s'acheter de eux-mêmes quelques friandises. Donc il n'y a pas de mal dans cela. C'est min mahasin al-adat. Ça fait partie des bonnes coutumes. Et ça fait entrer la joie dans le cœur de la famille. Et ça, c'est recommandé de le faire. C'est parmi les plus grandes causes de hasanat. Une des plus grandes actions aimées chez Allah, fait une joie que tu fais rentrer dans le cœur du musulman. Tu annonces les bonnes nouvelles, tu lui donnes un cadeau, tu lui dis une belle chose, tu lui es profitable, tu lui éloignes une dette, tu lui payes une dette, et ainsi de suite. هذا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وهو أكرم الأكرمين الجواد الكريم الحي القيوم الوهاب أن يعطينا أجمعين الخير العظيم في يوم العيد كما أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بلغنا يوم العيد اللهم بلغنا يوم العيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على إتقان آخر شهر رمضان بالجد والاجتهاد بالصوم والصلاة بالقيام والدعاء والصدقات وسائر أعمال تحبها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.